Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons ce soir François Lamy, ancien ministre de la Ville, député de l'Essonne et conseiller politique du premier secrétaire du Parti socialiste. Bonsoir François Lamy. À mes côtés pour vous interroger, Laure Breton de Libération. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Et Philippe Onillon de l'AFP. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors François Lamy, avant d'évoquer la réforme territoriale, qui est le gros sujet d'actualité de cette journée, l'Élysée a annoncé il y a peu de temps, en fin d'après-midi, un mini remaniement. Valérie Fourneyron, secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat, a démissionné. On le sait, elle avait été malade.
Elle est toujours malheureusement malade.
Elle est remplacée par Carole Delga, députée de Haute-Garonne, et puis Thierry Mandon, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée, qui était déjà en charge d'une mission sur la simplification, devient secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification, justement. Alors, est-ce que au moins cette deuxième nomination est un signe positif au lendemain de l'annonce de la réforme territoriale dont nous allons parler tout de suite?
Il y a deux signes positifs. Le premier, c'est qu'il y a un deuxième Essonien au gouvernement, et je m'en félicite.
Solidarité à l'Essonne.
Bien sûr. Et puis, le deuxième motif de satisfaction, c'est que Thierry Mandon avait travaillé dans le cadre de la commission prétrinale sur la réforme de l'État. Il sait de quoi il parle. Et je crois qu'il sera efficace à son poste. Et il y a du travail.
C'est l'homme de la situation.
C'est un des hommes de la situation, bien sûr, parce que moi, je l'ai vécu d'ailleurs en tant que membre du gouvernement. Un des freins à la réforme de ce pays et à la réforme positive. Parce qu'on parle beaucoup de réformes, mais après tout, il y a des fois des réformes qui mènent à la régression. Mais c'est vrai que le fonctionnement de l'État demande à être profondément réformé. Tout est long. Tout est, moi je l'ai vu dans un domaine, tout particulièrement celui du logement, où tout d'un coup, entre la prise de décision, celle qui consiste à dire, entre autres, par exemple, qu'on va proposer aux collectivités des terrains de l'État pour faire du logement social, et puis à l'arrivée, plus d'un an et demi après la décision, on s'aperçoit que chacune des administrations, qu'il est très difficile de prendre de sortir les textes, et qu'une fois qu'ils sont sortis, les administrations résistent. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que je crois que dans notre machine d'État, il y a beaucoup de technocratie.
Pourquoi avoir attendu maintenant pour nommer ce secrétaire d'État?
Ça vous poserait la question au président de la République. Mais je crois que simplement il est assez conscient du fait qu'un des freins à ce qu'il veut faire, aux réformes qu'il veut engager dans le pays, c'est justement l'organisation et le fonctionnement de l'État.
Alors maintenant passons à la réforme territoriale. C'est la grosse actualité du jour. François Hollande a présenté hier cette réforme qu'il avait annoncé au début de l'année. Principale mesure, le passage de 22 à 14 régions. Le président de la République a choisi de l'annoncer dans une tribune qui a été diffusée hier dans la presse régionale, enfin ce matin dans la presse régionale et envoyée très tard hier soir. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter le député UMP de la Marne, Benoît Paru, qui a commenté cette annonce tout à l'heure à l'Assemblée nationale au micro de Pierre Firsion.
On a quand même vécu une journée hier qui était une journée, allez, quasi un remaniement ministériel. Des rumeurs, des coups de téléphone, des pressions des uns des autres. Eh ben finalement, je mets telle région avec telle autre. Oh ben finalement, je rechange. Il a fallu décaler d'une demi-heure l'impression des journaux pour qu'effectivement, on attende de savoir si le chiffre était 13 ou 14. Ça, c'est de la préparation crédible, poussée, tangible, sur des bases économiques, démographiques, culturelles, sociologiques, lourdes.
Alors, est-ce qu'en effet, François Lamy, ce redécoupage ne donne pas l'impression d'avoir été tranché un peu à la dernière minute pour ménager les uns et les autres?
Oui, mais vous savez, enfin, ce dont parle Benoît Paru, c'est l'écume des choses par rapport à une réforme de cette ampleur. Avant même de répondre à votre question sur la question de la carte des régions, qui est le sujet qui assez naturellement passionne aujourd'hui, pour moi, le principal de la réforme, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, on est en train d'engager une réforme structurelle en profondeur et dans la durée qui va voir monter en puissance un couple qui est le couple intercommunalité, c'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire le regroupement des communes qui elles seules ne peuvent pas agir et qui tout d'un coup trouvent un outil plus musclé, mais qui en même temps est un outil de proximité, parce que l'intercommunalité, ça reste proche des citoyens. Et un outil stratégique qui, lui, voit le long terme et va travailler sur le développement économique, sur les transports, sur la formation, sur l'éducation, et ça, c'est les régions. Voilà, c'est ça, pour moi, le principal à l'intérieur de la réforme. Après, il y a toutes les autres étapes sur les compétences, on pourra peut-être en reparler, et la fameuse carte des régions. Il n'y a pas de bonne méthodologie, et vous l'avez bien vu. Le président de la République a reçu les principales forces politiques pour recevoir leurs propositions. Faut pas dire que le dialogue a été très très fructueux du côté de l'opposition. Et puis après, vous avez des présidents de région qui les uns et les autres d'abord regardent quels sont les intérêts de leur région actuelle. Bon, et puis qui cherchent les mariages possibles. Et quand vous partez avec cette méthodologie-là, bah, de temps en temps ça marche. C'est ce qui s'est passé entre la région Bourgogne et la Franche-Comté.
Qui avait déjà annoncé avant même la réforme qu'ils allaient se rapprocher.
Et puis après, vous voyez bien qu'à un moment, c'est compliqué. Donc il faut bien, à un moment, prendre le stylo, marquer, et puis dire c'est une carte, elle est là. Elle est posée, elle peut être modifiée si vous trouvez d'autres solutions qui soient meilleures. Prenez la région Poitou-Charentes. On l'a vu un coup avec les Pays-Loire, on l'a vu un coup avec l'Aquitaine, on la voit aujourd'hui avec la région Centre et le Limousin, et chacune des possibilités a sa logique. Bon.
Donc, entendu dire aussi que Ségolène Royal ne voulait pas de rapprochement avec l'Aquitaine.
Oui, mais elle avait souhaité les Pays-de-Loire l'avaient souhaité, mais une partie des Bretons souhaitait aussi le Pays-de-Loire. Vous voyez bien que tout ceci était assez complexe. Maintenant, il y a une carte, voilà, et c'est à partir de cette carte qu'il faut travailler. Si demain, deux régions ne sont pas satisfaites du découpage, mais j'ai pas entendu beaucoup de protestations des présidents de région aujourd'hui, des principaux concernés. Voilà, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait plutôt...
Le président de la Picardie a eu l'air surpris.
Peut-être à l'exception
d'être rapproché de la Champagne-Ardenne.
Oui, mais qui lui-même, et je le connais bien, Claude Gévérec, qui peut-être lui-même a été trop frileux, pensant qu'après tout, l'annonce du président de la République n'irait pas à son terme. Voilà. Et qui n'a pas été peut-être suffisamment offensif pour proposer lui-même des, entre guillemets, mariages avec d'autres régions. Voilà. Donc, maintenant, les choses vont avancer. La carte, le président l'a dit, et le Premier ministre également, cette carte, elle peut évoluer.
Il va y avoir un débat parlementaire.
Dans le débat parlementaire. Mais en même temps, moi, je partage l'avis du président de la République dans sa tribune dans la presse quotidienne régionale. Il faut que ça aille vite. Voilà. Parce que sinon, on réveillera tous les particularismes et on s'éloignera de ce qui constitue l'essence même de la réforme, c'est-à-dire une vraie réforme structurelle de nos collectivités territoriales, quoi.
Alors, Breton, vous dites, s'il y a un frein, c'est la technostructure, il faut une réforme de l'État plus aboutie. Quel est le gain, justement, en efficacité de cette réforme? Pourquoi passer de 22 à 14 régions? Quel est le but politique, peut-être stratégique, du président de la République en accélérant cette réforme?
Je crois que vous avez des régions qui étaient trop petites au niveau européen, bon, et qui nécessitaient d'avoir une taille plus conséquente en termes de produits intérieurs bruts, de capacité d'action aussi, hein. Bon, parce que derrière une région, c'est une administration, bon, mais c'est aussi des recettes. Donc, en salle d'un croissant, voilà, c'est la possibilité aussi de faire des économies d'échelle. Voilà, on va le vérifier maintenant, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a d'une part la réforme de la carte et le report des élections au mois de novembre ou décembre 2015, et en même temps la deuxième loi que nous ne connaissons pas encore, qui est celle qui sera présentée le 18 juin avec les compétences. Parce que
il y aura deux projets de loi.
Bien sûr, parce que c'est vrai que un simple regroupement de régions, s'il n'y a pas de renforcement des compétences, on serait à la moitié du chemin. Voilà. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait effectivement des réponses en matière de compétences sur la formation professionnelle, sur l'emploi, mais ça, le président de la République le dit dans sa tribune. Et puis qu'on travaille aussi sur les questions de solidarité à l'intérieur des régions. Entre les collectivités et entre régions elles-mêmes, quoi.
Philippe Onillon.
Juste un mot. J'en remarque une expression qui a rapidement disparu du débat sur la réforme territoriale, c'est le millefeuille. On parle plus du millefeuille. Et d'ailleurs, effectivement, on s'attaque plus au millefeuille.
Si.
On bouge les frontières, on fait monter l'intercommunalité, on supprime pas vraiment grand chose, on parle plus vraiment d'économie.
On supprime le département à échéance de 2020.
Rappelez-nous un peu la logique, notamment sur un plan budgétaire.
L'objectif est pas d'abord et avant tout budgétaire.
Oui, parce que sur les économies,
l'objectif,
on sait
c'est
pas.
Que le citoyen reconnaisse, sache qui fait quoi dans parmi toutes les collectivités auxquelles il est.
Moi, j'avais compris qu'il y avait trop de feuilles, qu'il fallait enlever des feuilles.
Mais là, à terme, dans la proposition de François Hollande, c'est la disparition programmée. C'était écrit des départements en 2020.
C'est un objectif. Il le dit, un objectif, suppression des conseils généraux, objectif 2020, révision constitutionnelle après 2017. Donc prochain quinquennat.
Mais tout le monde sait.
On repousse l'échéance là.
On a une opposition qui est malheureusement sur ce sujet comme sur bien d'autres d'ailleurs, dans l'outrance et dans la caricature. Bon, vous avez une UMP qui est capable de dire, comme le disait Manuel Valls tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée, qui est capable sur son propre site internet, ça y est encore, de dire qu'elle est pour la suppression des départements. Et le jour où on lui propose la suppression des départements, l'UMP dit non, finalement c'est pas ça comme ça qu'il fallait faire. Bon, donc on sait qu'on a besoin pour supprimer les départements d'une réforme constitutionnelle. Voilà. Chiche, si l'UMP
À l'UMP, ils ont une autre solution, ils proposent un référendum pour aller plus vite, pour soumettre aux Français...
On est dans la petite politique politicienne, et il suffirait que l'UMP dise « Ok, on est d'accord pour la suppression des départements » et ça pourrait se mettre en place. Voilà. Mais là, ils sont pas entre leurs propres batailles internes et puis leur volonté d'en découdre avec le président de la République. Malheureusement, ils ne vont pas dans le sens des intérêts de la France. Donc, d'où le fait que malheureusement, on sera obligé d'attendre 2020 et une possible réforme constitutionnelle. Le temps aussi... D'ailleurs que les transferts de compétences entre les départements, qui a quand même une compétence forte, tout particulièrement en matière sociale, se fassent. Voilà. Et ça peut pas se faire non plus en claquant dans les doigts. Mais l'objectif, c'est bien à terme la suppression du département et la rationalisation avec les intercommunalités. On conserve les communes. Mais on sait très bien que il faut maintenant muscler ces regroupements de communes. C'est là qu'on fera véritablement des économies et qu'on sera le plus efficace, surtout dans l'action de tous les jours.
Laure Breton,
vous êtes maintenant le conseiller politique de Jean-Christophe Cambadélis à la tête du Parti Socialiste. Vous avez été pendant des années le bras droit de Martine Aubry à ce même poste. Il y a une petite musique qui se dégageait aujourd'hui dans la majorité qui disait qu'elle avait elle-même passé un coup de fil au président de la République pour dire... qu'il fallait pas fusionner Nord-Pas-de-Calais avec Picardie.
J'avoue que je peux pas répondre à votre question puisque je ne l'ai pas eu au téléphone, donc je ne connais pas son avis là-dessus.
Elle était pas forcément pour, est-ce qu'elle a passé un coup de fil?
Mais j'en sais rien. Vous me le dites, je l'ai lu, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Vous savez, il y a beaucoup de, c'est comme dans, un peu nous apparu parler des remaniements, il y a beaucoup de rumeurs aussi dans les remaniements. Ce que je sais, c'est que la région Nord-Pas-de-Calais est quand même suffisamment forte actuellement pour pouvoir agir. Elle connaît de graves difficultés. Enfin, elle dispose aussi de moyens. Et je crois que ce qui préoccupe Martine Aubry, c'est d'abord et avant tout que cette région progresse, en sachant par ailleurs que Nord-Pas-de-Calais est bien entendu tourné vers son espace, ses voisins français, mais aussi tourné vers la Belgique. Voilà, et que le travail fait avec les Belges est tout aussi important pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais que le travail fait avec les régions voisines.
Ce découpage n'a pas de visée politique et électorale.
Je vois pas
faire
laquelle,
une grande région où le Front National serait en capacité.
Non, mais c'est pas ça. Enfin, tous ceux qui pourraient imaginer ça ne sont pas sérieux, quoi. Je veux dire, jamais d'abord un redécoupage, même électoral, n'a produit les effets escomptés. Jamais. Voilà. Regardez, le dernier redécoupage législatif de Charles Pasqua, ça a donné 2 ans après la victoire de la gauche. Le redécoupage législatif de Monsieur Marleix a donné la victoire aussi de la gauche.
Ça n'empêche pas d'y penser. On essaye, ça marche pas, mais on essaye à chaque fois, quand même.
Non, mais je vois pas, vous savez, les élections régionales, elles vont être repoussées de quoi? 6-8 mois. Bon, je crois pas que ça soit en fonction du découpage de la région elle-même. D'ailleurs, est-ce que tous les Français connaissent exactement le découpage de leur région actuelle? Voilà, je crois que c'est pas... Non, tout ça, c'est un argument qui est pas très sérieux, quoi.
Deuxième réforme qui fait débat, qui est en examen à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui, la réforme pénale, qui est soutenue par Christiane Taubira. Est-ce qu'il risque d'y avoir un bras de fer entre les parlementaires socialistes et le gouvernement sur cette réforme? Il y a eu un petit incident dès le passage en commission. Christiane Taubira a laissé passer un amendement qui plaisait pas au gouvernement sur l'extension de cette fameuse contrainte pénale, une peine de probation pour faire sa peine hors de la prison. On sent que là-dessus, il y a encore des tensions entre socialistes.
Il n'y a pas des tensions. Moi, j'étais ce matin à la réunion du groupe socialiste, il y a du débat. Voilà. Bon.
Voilà, du
Après,
débat.
Moi, je souhaite que ça n'aille pas jusqu'à une tension, parce que c'est une réforme importante. Bon. Et qu'en plus, je vous parlais d'outrance et de caricature tout à l'heure, en parlant de l'UMP et de la réforme territoriale, là aussi, on est dans l'outrance et la caricature sur la question de cette réforme, qui est une réforme importante. Bon. Et là encore, on a toujours tendance à voir l'écume. Regardons de quoi il s'agit. Voilà. C'est de la réalité actuellement de la justice de ce pays, de la réalité pénitentiaire, qui fait qu'on a eu de multiples lois ces 10 dernières années, qui n'ont absolument pas fait baisser la délinquance, qu'on n'a jamais eu autant de prisonniers à l'intérieur de nos prisons, et qu'on sait très bien que la prison est un facteur aggravant de récidive. Bon, et donc cette réforme, elle vise à la fois, bien entendu, à sanctionner, bon, sur des peines qui ne dépassent pas pour l'instant sur la proposition du gouvernement. Et moi, je souhaite qu'on reste sur cette position-là, sur les zéros des peines allant de 0 à 5 ans. Bon, et puis à faire que non seulement on sanctionne, mais qu'en même temps on permette d'accompagner celui qui a commis le délit pour que petit à petit il se réinsère dans la société et il ne commette pas d'autres délits. Je veux dire, c'est comme ça qu'on va protéger les citoyens et qu'on évitera de nouvelles victimes, quoi.
Laure Breton, globalement, en fait, vous êtes de retour à l'Assemblée nationale depuis un petit mois. Vous parlez de débat, certains parlent de tension, d'autres parlent quasiment de rupture au sein du groupe socialiste. Comment vous trouvez vos camarades socialistes après 2 ans de quinquennat et à l'aube de toutes ces réformes dont on est en...
Moi, je peux comparer, puisque je suis député depuis 97, donc j'ai été à la fois dans l'opposition, mais aussi dans la majorité. C'est pas la même ambiance, effectivement. Mais je crois que les députés ne sont pas les mêmes non plus. Bon. Et qu'entre-temps, il s'est passé la réforme à la fois du quinquennat et de l'inversion du calendrier. Bon. Et qu'il y a une demande assez juste, je crois, des parlementaires d'être plus actifs dans la préparation des projets de loi.
On va en reparler dans la deuxième partie, François Lamy. Je vous interromps parce que j'aimerais qu'on évoque l'arrestation de Mehdi Nemmouche avant l'interruption. C'est un Français d'une trentaine d'années qui était vraisemblablement impliqué, qui est l'auteur certainement du meurtre de 4 personnes au musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier. Ça a relancé le débat en France sur les filières djihadistes. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui parle de cette affaire.
Moi, je suis scandalisé par la naïveté stupéfiante de notre gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable de protéger les Français des dangers qui pèsent sur lui parce que ils ne veulent pas prendre la mesure, pour des raisons idéologiques, précisément de ce danger, de ce fascisme vert que je dénonce depuis déjà de très nombreuses années.
Alors, est-ce que le gouvernement minimise ce danger ?
Je ne crois pas. Vous avez entendu Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, en parler beaucoup. Vous avez entendu aussi Bernard Cazeneuve, moi aussi, qui est très scandalisé. Moi, je suis scandalisé par l'utilisation politicienne de Marine Le Pen de ce qui constitue une difficulté pour notre pays. Mais une fois qu'on a dénoncé les risques, la vraie question, c'est comment on réduit ces risques. Et on sait que la différence maintenant, c'est qu'on n'a pas forcément affaire à des groupes structurés, mais à des individus. Bon, on parle de 600, 700, 800 qui sont partis faire le djihad en Syrie, dont une partie sont revenus, dont on sait très bien qu'il sera très très compliqué de les suivre individuellement. Il faut entre
dans
15
le cas et... de Mehdi Nemmouche, il avait été signalé, on savait qu'il était parti,
oui,
qu'il s'était radicalisé en prison.
Pour suivre un individu 24 heures sur 24, il faut entre 15 et 20 policiers. Bon, donc multiplier ça par le nombre de djihadistes potentiels. Donc le vrai problème, c'est que il faut qu'on renforce effectivement les liens avec les pays européens. Il faut qu'on se dote d'une législation qui soit plus adaptée que la législation actuelle, puisque vous savez qu'on ne peut pas empêcher un majeur, par exemple, de partir à l'étranger, même si on sait très bien qu'il va faire le djihad. Il y aura une proposition, un projet de loi présenté par Bernard Cazeneuve au Conseil des ministres prochainement pour répondre à cette question. Il faut renforcer certainement les moyens et l'efficacité pour que nos services soient plus efficaces. Voilà. Mais je crois que le gouvernement a vraiment pris conscience de ces difficultés. Après, je pense qu'un jour dans ce pays, quand même, il faudra qu'on aborde aussi de manière apaisée les raisons, et moi je l'ai vécu en tant que ministre de la Ville, les raisons pour lesquelles tout d'un coup, des jeunes à l'intérieur de certains de ces quartiers cherchent du sens à travers la religion et comment tout d'un coup ils se trouvent détournés de leur objectif premier par un dévoiement de la religion. Voilà, ça c'est, me semble, aussi un sujet qui est posé à notre société, quoi.
Eh bien merci François Lamy, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous nous retrouvons dans 3 minutes exactement avec François Lamy, ancien ministre de la Ville, député de l'Essonne.